À la une de ce journal, la 5G qui est arrivée à Mende, Thierry Alignan, délégué régional Orange Languedoc-Roussillon, sera demain en ville-préfecture pour le lancement officiel de la 5G. Suite à l'adoption de la nouvelle stratégie culturelle régionale 2022-2028, Claire Fita, vice-présidente de la région Occitanie, en charge de la culture partout et pour tous, était en déplacement à Mende la semaine dernière afin de présenter aux acteurs culturels et institutionnels du territoire régional les orientations pour une culture partout et pour tous et la priorité de cette stratégie, émanciper et susciter le désir de culture pour les jeunes et le public éloigné. Claire Fita.
Oui, nous venons de vivre une crise sanitaire qui a vraiment empêché l'acte culturel, le partage. Et donc, on a des inquiétudes, clairement, sur le retour du public sur nos propositions culturelles. Donc, voyez, par exemple, à la veille de cette saison estivale qui est marquée par beaucoup de festivals, nous avons choisi de lancer une grande campagne de communication. En région, on a 1000 festivals. Vous vous rendez compte, c'est impressionnant. Et en Lozère, là, il y a des festivals qui vont commencer. Enfin, voilà, il y a aussi une belle programmation. Et donc, derrière aussi ce type d'engagement, c'est travailler sur la médiation culturelle. Il faut que nous arrivions à aller vers ce public et rendre accessible notre offre culturelle à un public qui serait éloigné. Donc, c'est comment on monte en expertise sur cette médiation et comment ensuite on travaille avec l'ensemble des acteurs culturels sur leurs propositions et comment nous, on peut accompagner ces démarches-là modestement, mais je pense que tous les acteurs publics doivent être mobilisés pour la culture. Il y a eu une fragilisation de l'ensemble de nos acteurs culturels durant cette période, y compris moralement. Donc, voilà, c'est important de leur dire qu'ils sont essentiels.
Et parmi les freins en milieu rural, la mobilité.
Tout à fait. Et d'ailleurs, notre stratégie, elle est véritablement tournée vers le monde rural, mais aussi sur des quartiers, par exemple, politiques de la ville, où on a des publics qui sont parfois plus éloignés de la culture. Donc, bien, c'est des actions très concrètes, comment on travaille sur la tarification. Et donc, ça veut dire que nous, région, on aide les propositions culturelles pour que la politique tarifaire soit accessible. Mais c'est ensuite travailler sur les mobilités, le transport. Et donc ça, alors là, il y a que l'intelligence collective et le terrain. Nous, on arrive avec de l'ingénierie, vous voyez, des idées de ce qui peut se faire ailleurs. Il y a déjà des pratiques, d'acteurs culturels qui mettent des bus pour aller voir tel ou tel spectacle. Mais on voit bien que c'est limité, donc il faut aller plus loin. Et donc là, la conclusion de notre temps d'échange tout à l'heure, c'était de se dire qu'il faut absolument qu'on se fasse un temps de travail en Lozère que sur le transport. Voilà, comment on réfléchit ensemble, lieu par lieu, mais aussi école par école, parce que notre public jeune, c'est réellement notre priorité.
Claire Fita continue ses déplacements en région en allant à la rencontre des acteurs de l'ensemble des départements. À noter que la région Occitanie lance donc une grande campagne de promotion des festivals en Occitanie. Occitanie 1001 Festivals, 1001 raisons de vous émerveiller, qui vient juste de démarrer, sera déployée pendant toute la durée de la saison estivale. La région soutient aussi près de 150 festivals du spectacle vivant pour un montant de 4 millions d'euros. Et justement, les festivals arrivent et les organisateurs ont besoin de bénévoles. L'association La Boarte pour le 48e de rue et les Fadarelles pour le Festivalier ainsi que Détour du Monde viennent de lancer un appel. Vous pouvez vous y inscrire sur leur site internet respectif. L'association Terre de Vie en Lozère organise des rencontres publiques afin de présenter la stratégie de développement du territoire, des rencontres participatives pour discuter des enjeux et de ce qui pourrait être fait pour assurer l'avenir des habitants concernant l'économie et le tourisme, la qualité de vie, l'environnement et la biodiversité. Aujourd'hui, une réunion se tient à 9h30 à la salle des fêtes de Grand-Rieu, mardi à 10h au Chastel Nouvelle et jeudi à 14h30 au Blémard. Le réseau Addictologie Lozère ferme définitivement ses portes à la fin du mois de juin. Le réseau qui tenait entre autres un stand de réduction des risques en milieu festif nommé le Collecteuf. Le domaine des Boissés fait peau neuve. Le domaine géré par le conseil départemental a une nouvelle scénographie. La nouvelle scénographie que le département vous invite à découvrir a pour objectif de proposer aux visiteurs une immersion et une meilleure compréhension du lieu et de ses particularités. Ainsi, deux grands thèmes sont répartis dans les deux maisons. La maison UNESCO, qui est consacrée au paysage d'Écosse, et la ferme Cossenarde, qui permet de mettre en lumière les pratiques et savoir-faire cossenard avec la présentation de l'architecture de la ferme des Boissés. Justement, sur l'histoire de ce domaine, de cette ferme, Isabelle Darnas, conservatrice en chef du patrimoine au département de la Lozère.
Alors bon, l'histoire, on la connaît pas trop dans le détail. On sait juste que le domaine est mentionné pour la première fois dans les textes en 1428. Donc il est déjà un gros domaine avec un gros impôt. Donc on suppose qu'il est au moins 100 ou 200 ans antérieur, puisque c'est déjà une grosse ferme au 15e siècle. Ensuite, un gros apogée 17e, 18e, qui est vraiment la période la plus florissante du lieu, avec plus de 650 moutons répartis en trois familles, donc quand même une certaine richesse pour le cause de Sauveterre. Et un autre renouveau, 19e, avec des modifications architecturales assez importantes, notamment dans ce qu'on appelle, nous, la grande maison, c'est-à-dire le corps de logis principal, où actuellement on peut se restaurer. C'est typique d'Écosse, c'est-à-dire un corps de logis, une grange étable pour les animaux, collée ou pas collée, ça dépend des cas de figure, une aire à battre, les sous à cochons, enfin voilà, tous les éléments agricoles qu'il y avait dans les fermes jusqu'à encore au XXe siècle, hein, jusqu'à encore relativement récemment.
C'est Stéphanie Navetch, architecte, qui s'est occupée de tous les travaux sur site, y compris la scénographie.
Il y a quelque chose de très fort à Boissey, des bâtiments très simples, des voûtes, de la pierre, des choses très pures, très belles, avec d'une couleur très particulière. C'est cette pierre ocre, un peu teintée de rouille. Et le premier travail qu'on a fait au niveau donc de la scénographie, c'était donc d'aller dans le sens de cet épurement, de cet dépouillement, et de créer tous les éclairages à partir du sol dans des gorges lumineuses qui éclaire le bas des voûtes de façon à créer une lumière un petit peu à la façon de la lumière sur les corniches des gorges, et aussi pour tout ce qui est technique, créer un grand caniveau central en acier cortène, hein, toujours cette couleur de rouille qu'on trouve dans la terre des Sotches et des Dolines, afin de n'avoir aucun matériel technique qui vienne nuire à la lecture des voûtes. Voilà. Avec aussi toute la localisation des placards techniques dans les tympans, parce que les tympans dans la structure des voûtes n'a pas d'importance, les voûtes s'autoportent, et donc je me suis servi de tout ce qui est tympan, donc ces façades verticales, pour mettre les espaces techniques et aussi pour faire des projections, des rétroprojections, y mettre des images, voilà, pour ne pas nuire à la lecture structurelle des bâtiments de Boissey. Pour moi, c'est un lieu magique. C'est vraiment, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un livre posé entre ciel et terre, vraiment, voilà, qu'il faut donner à lire, qu'il faut illustrer. Non pas que mon interprétation soit la bonne, mais je veux qu'elle pousse les gens à avoir un regard autre sur ces pierres, sur ces bâtiments. Peut-être en opposition à celui que j'offre, mais en tout cas, qu'ils aient un regard. Voilà, c'est la possibilité d'offrir un regard sur ces bâtiments.
Et le domaine va vivre tout cet été avec des animations culturelles proposées par le collectif Ligne d'Horizon. Les travaux ont coûté 480 000 euros, répartis pour 50%, soit 235 000 euros par l'État, suivent 40 000 euros pour la région et 186 000 euros du conseil départemental. L'association Contelico propose un atelier parents-enfants ce mardi de 10h à 11h à la salle des fêtes de Langlade, autour d'albums et de comptines. C'est de 3 jours à 3 ans. Il faut vous inscrire auprès de l'association. Enfin, les saveurs nomades poursuivent leur périple dans les communes de la communauté de communes du Haut-Allier. En collaboration avec la communauté de communes et dans le cadre de son plan alimentaire de territoire, le Secours populaire français propose de sillonner les routes pour venir à la rencontre de tous les publics intéressés par le partage de saveurs. Il s'agit, tout en échangeant autour de recettes, de mettre la main à la pâte, de se confronter à la réalisation de mets et surtout de les savourer ensemble autour d'un repas. La troisième étape de ces saveurs nomades aura lieu mercredi à partir de 16h30 à la salle des fêtes de Naussac.